Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Parmi les frères qui ont vécu à l'abbaye Sainte-Marie du Désert, l'un d'eux occupe une place particulière, c'est le bienheureux frère Marie-Joseph Casson, dont nous célébrerons la fête ce samedi 16 juin. Entré très jeune au monastère à l'âge de 16 ans, il y mourut 9 ans plus tard, à l'âge de 24 ans. 9 années qui, sous la houlette du père André Mallet, lui permirent de parcourir un chemin de bonheur, un chemin de sainteté. Un chemin de bonheur retracé aujourd'hui à partir de photos de famille et de magnifiques reproductions d'œuvres d'art dans l'entrée, dans la chapelle et dans la crypte de l'abbaye. Un chemin de bonheur conçu aujourd'hui afin de présenter à un large public la vie et la spiritualité du frère Marie-Joseph Casson. Il y a quelques années, à l'occasion d'un autre reportage, je rencontrais le très malicieux frère Robert. Avec lui, je parcourais ce chemin du bonheur dont je ne vous avais fait entendre alors qu'un très court extrait. Le voici aujourd'hui dans son intégralité.
Alors on va chez le père Casson. Ça c'était l'infirmerie à l'époque du père Casson. L'infirmerie qui à l'origine était à l'étage, au-dessus du réfectoire où vous allez manger. Puis le père abbé de l'époque avait dit, bon, parce que quand les malades avaient monté l'escalier, ils ne redescendaient pas normal. Hein. Tandis qu'ici, c'était très bien exposé. Et c'est là que le père Casson est décédé. Et à partir de là, nous avons la crypte. Voilà. Et ici, alors, nous sommes en plein chez le père Casson. Normalement, je suis chargé d'accueillir aussi pour le petit Robert.
Ah, donc là, c'est l'entrée, voilà.
Là, c'est l'entrée, c'est pas l'hôtellerie. On a voulu séparer, justement, pour isoler un peu. Autrefois, c'était en clôture, bien sûr. Et cette partie, c'était l'infirmerie à l'époque du père Casson. Alors, on a démoli 5 cellules pour faire ce chemin du bonheur qu'on appelle. C'est un artiste qui nous avait écrit ça. Et on aboutit, c'est ça qui marque les gens aussi, c'est un lieu où a vécu le père Casson, puisque c'était l'infirmerie. On aboutit à la chambre où il est décédé. Mais alors, le chemin du bonheur aussi, voyez-vous, au début, c'est un terme qui m'a un peu intrigué, parce que parler du chemin du bonheur chez le père Casson, quand on voit la vie d'épreuve qu'il a connue, mourir à 25 ans, parler du chemin du bonheur, ça peut paraître un peu drôle. Mais en fait, le chemin du bonheur, pourquoi ? C'est parce qu'il a trouvé son bonheur en Jésus. Il a trouvé le centre et qui lui a permis d'assumer tout le reste. D'autre part, ce chemin, je le dis souvent à des jeunes, ce n'est pas une autoroute. La vie, ce n'est pas une autoroute. On ne démarre pas et puis pouf, tout droit. Il y a plein de virages. Et souvent, il peut y avoir des échecs qui vous mettent sur le vrai chemin, c'est important. Dans le cas du père Casson, ça me paraît typique. Il a échoué à Casseneuil parce que, ne pouvant pas assimiler le latin, il est rejeté du petit séminaire, alors que son rêve, c'est d'être prêtre. Bon, il rentre ici avec cette notion, ce désir de sacerdoce, mais en fait, c'était pas l'essentiel pour lui, je crois. Le sacerdoce, c'était une forme de consécration à Dieu, la seule qu'il connaissait. Donc en fait, c'est un échec, quelque part, qui l'a conduit ici. Et en le conduisant ici, finalement, il retrouve sa vraie vocation, qui était une vocation contemplative. Il n'aurait pas réussi dans le ministère diocésain. Mais ici, il pouvait très bien être prêtre et moine de la conception qu'il a, un sacerdoce tout orienté vers l'Eucharistie. Et donc, je dis, c'est cet échec, et je dis, c'est important pour des jeunes, des fois. Qui s'imaginent, parce qu'on a un échec, c'est effectivement. Mais non,
ça permet de rebondir, repartir.
Et là, ça se trouve dans le virage. Alors ici, nous avons la maison familiale du père Casson. C'est pas là qu'il est né. Il est né dans une autre maison qui est tombée en ruine. Il a vécu ici à partir de l'âge de 6 ans. Là, c'est la cuisine, parce que j'y suis allé. Puis les cuisines, ça ne se change pas parce qu'il y a la cheminée. Et là, nous avons une photo de 1902. C'est presque l'époque où il a été se reposer. Alors, on a le papa et la maman. Il avait un frère, une belle-sœur et une petite nièce. Là, c'est le père Casson, un habit d'étudiant, élève chez les frères des écoles chrétiennes. Et très vite, c'est curieux parce qu'il est premier en classe, on a des certificats de bonne conduite, d'application et tout, mais il a un gros problème de mémoire. Moi, je crois qu'il faut faire attention. J'ai trouvé ça dans une vieille du curé d'Ars où on disait qu'on confondait à l'époque mémoire et intelligence. J'ai eu la chance de découvrir les livres donc, qu'il a eu entre ses mains. À force de fouiller dans les greniers, je crois que j'ai à peu près tout trouvé. Il faut être un peu détective hein, quand on les archives. Et on se rend compte que sur une page, il va dénicher la phrase clé, la phrase importante qui correspond à son état. Mais il n'aurait pas été capable d'élaborer ses belles pensées. Au début, on avait des phrases là, du Père Cassin. Oh, c'est beau, c'est du Père Cassin. Puis j'ai dit non, excusez-moi, ce n'est pas de lui, il l'a copié. Mais ça correspond.
Mais ça correspond à, voilà, à sa vie intérieure.
Ça traduit.
Ah oui, ça traduit sa vie intérieure. Oui.
Donc c'est très
oui,
important. Et c'est pour ça que moi je dis, jusqu'à présent, quand on avait écrit ou parlé du Père Cassin, c'était souvent à partir d'une simple petite note, un peu de papier qu'il a écrit comme il a pu, parce qu'il était obligé de travailler dans les champs, les études et tout. Mais quand on a l'ouvrage entier qu'il a eu dans ses mains et qu'on sait qu'il l'a lu, c'est autre chose. Ça porte notre regard sur le frère. Et moi, il n'en a pas lu beaucoup, peut-être, mais avec une intention. Et moi, j'appelle ça
l'intelligence.
L'intelligence du cœur. J'appelais ça comme ça. J'ai hésité parce que souvent, par exemple, les lectures qui se faisaient pendant le repas, on fait de la lecture. Mais souvent, il a retenu des lectures au réfectoire parce qu'il a reconnu dans le personnage en question soit son propre cheminement, soit son propre père spirituel ou des choses comme ça. Et ça, pour moi, c'est bouleversant. Quand le père Cassin est rentré, on venait de construire cette partie de l'infirmerie. Alors c'était émouvant parce qu'il est rentré en 1894 et il raconte, il dit « Aujourd'hui j'ai travaillé à l'infirmerie pour la nettoyer parce qu'on a amené les malades en 1896 ». Et quand on pense que 6 ou 7 ans plus tard, il sera là,
c'est émouvant. C'est
voilà, alors ça c'est le père André Marie. Il est rentré tout jeune aussi, qui était un Aveyronnais, qui avait perdu son papa tout jeune aussi, c'était émouvant. Mais il y a un grand lien spirituel entre le père Cassin et lui.
Et même ils se sont compris tout de suite.
Hein, ah oui, c'est très curieux parce que le moment, c'est très facile à trouver. Quand le père Cassin rentre à le monastère en octobre 1894, le père André Mallet permet des novices à ce moment-là. Il se rend compte que le jeune qu'on lui amène a un désir fou de Jésus, des choses comme ça. Il sent très vite la richesse du garçon. Et il lui dit tout simplement, je vous enseignerai à aimer Jésus. L'enseigner à aimer Jésus, il pouvait dire ça à tous les novices. C'était son rôle, de permettre. Tandis que très peu après la rentrée du père Cassin en communauté, il y a un décès au cimetière, nous étions tout à l'heure, le père Pierre. Et le père Cassin est très ému par ce décès. Parce qu'on disait que ce père Pierre avait une certaine renommée de sainteté un peu. On dit, moi aussi, je voudrais mourir comme un saint, tout ça. Et il pleure et tout. Alors le père André s'approche de lui. Il lui dit, ayez confiance, je vous enseignerai l'amour du cœur de Jésus. C'est-à-dire, en lui disant ça, il va le faire rentrer dans sa propre spiritualité. Et c'est là, sur cette tombe, que se crée vraiment sa vie. Et plus tard, il aura une image, le père Cassin, où on verra un calice, avec le cœur de Jésus au-dessus, qui saigne dans le calice, et puis 2 colombes qui viennent s'abreuver au calice. Et ces 2 colombes, elles symbolisent l'âme, l'union spirituelle entre le père André Mallet et le père Cassin. Et cette communion va durer jusqu'à la fin de sa vie. C'est pour ça que quand le père Cassin meurt, celui qui connaît tout du père Cassin, c'est le père André Mallet. Mais il ne peut rien dire parce que l'abbé de l'époque est sur eux. Il faudra attendre qu'il soit élu abbé. Il faut attendre 1910 pour qu'il puisse parler un peu du père Cassin. Et puis 1930, où le père Cassin va bouger.
Yeah.
passe encore une photo de Casteneuil, c'est intéressant. Vous avez le père Castan ici à son arrivée à Casteneuil. C'est le curé a déjà changé, son presbytère. Vous voyez comme il est maigre, il a la couronne encore et tout. Et puis après, la maman, elle a forcé la cuisine un peu. On a un visage très beau ici, on a réussi à l'agrandir un peu. Les cheveux ont repoussé. Ouais. C'est comme Samson, et ça repousse les cheveux. On n'a plus de couronne. Voilà. Il est resté quand même au moins cinq semaines en famille, c'est important. Et donc, vous voyez, il est joufflu et tout.
Ah oui, mais ça va, c'est renflumé.
Mais ça ne va pas durer. C'est comme un soufflé au fromage. Ouais. Ça va retomber très vite. Quand il va rentrer, il rentre ici début décembre. Et je crois qu'après au mois de... Très vite, il est à l'infirmerie. Mmh. Et puis à partir du 31 mars, il est carrément dans sa chambre de malade. Et alors, en fait, on aboutit à la chambre où il est décédé.
Donc, là, oui.
C'était tout petit. Donc, il y avait la porte ici. On a supprimé la cloison.
Donc là, vous avez gardé le parquet. Voilà,
oui. Le parquet, on a pu le sauver. J'étais content. Ah, c'est le parquet d'origine. Je suis content. Et la cheminée aussi, c'était le seul luxe. Parce que c'était l'hiver. La communauté couchait en dortoir. Je ne dis pas, c'était des alcôves. J'ai connu ça. C'était... C'est pas le congélateur des fois, mais presque. Et là, ils avaient un peu. Et on a pu sauver la cheminée. Donc tout ceci est authentique. Trois planches pour mettre du linge. Et puis, il devait avoir le lit par ici. Mm-hmm. Donc, mais vous voyez, c'est pas en norme aujourd'hui. Il n'y a pas de lavabo, pas de cabinet de toilette, rien du tout. Bon, je crois que quand l'Église, elle béatifie quelqu'un comme ça, c'est parce qu'elle sent que derrière, il y a un message qui est pour l'époque d'aujourd'hui. Et je crois qu'à l'époque d'aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de pauvreté. Et lui répond à ça. On a béatifié un pauvre, c'est quand même ahurissant. Bon, ici, sur le plan local, on n'a jamais depuis Braque. Ça se rapproche. Seulement, jamais depuis Braque. Elle est encore plus pauvre que lui, parce qu'elle n'a aucun écrit, on n'a rien. Lui, on arrive quand même à sortir quelque chose de ses écrits. Et le père général de l'époque, il disait, et le père Marie-José Castan, c'est vraiment un père spirituel pour notre temps. Et même pour les moines, on n'est pas, on plafonne pas au troisième degré de la contemplation, on est souvent pas des parcours. Alors, ce qui me touche beaucoup ici, c'est que c'est les circonstances de la mort du père Castan. Parce que le père Castan, donc, il est mort le 17 juillet 1903. Et c'était la veille, c'était un mercredi d'abord, la veille de l'octave de la fête Dieu. À l'époque, il y avait l'octave de la fête Dieu. Donc, c'était un mercredi, pour lui, c'est important, parce qu'à l'époque, le mercredi, c'était le jour consacré à Saint-Joseph. Saint-Joseph, patron de la bonne mort, puis c'était son patron. Le lendemain, c'était le jeudi, c'était l'octave de la fête de Dieu, ça veut dire que l'Église, je disais, ce qui remplissait l'Église, c'était le Saint-Sacrement qui était exposé. Et à cause de ça, on n'a pas pu mettre le corps, suivant la tradition, dans l'Église abbatiale. Le père Castan est resté ici, on a mis son corps ici. Il y a eu le matin les processions de la fête Dieu avec l'ostensoir autour des cloîtres, tout fleuri. Et l'après-midi, on a porté le père Castan au cimetière direct, même pas de messe d'enterrement à l'époque, c'est pas possible. Comme un chien, on le met dans le trou et puis c'est fini. C'était pas possible à l'époque, la liturgie ne le permettait pas. Alors le matin, il a pu y avoir à 7 heures un père qui a dit une messe privée, mais vraiment privée, inconnu. Et puis le vendredi, le lendemain, par contre, c'était la grande fête du Sacré-Cœur. Ah, c'est des dates, quand on relit un peu l'histoire comme ça, pour moi, c'est bouleversant. Donc, le corps sur une civière, si vous voulez. On l'a laissé là. Pourquoi ? Parce que quelque part, il s'est effacé devant l'Eucharistie, qui était le centre de sa vie. Ça, pour moi, il faut relire les choses comme ça. Des fois, on a des circonstances, et c'est très fort pour moi, ça. Et l'après-midi, après, non, on allait paf au cimetière direct. Il n'y avait personne, mais aujourd'hui, quand on a un enterrement, l'église est pleine. parce qu'on est connu au bout de 50 ans, hein, qui c'est qui me connaît pas maintenant, même pour les bêtises que j'ai dites, ça fait une célébrité. Alors, on a dit, et là, il y avait deux prêtres qui étaient venus pour l'octave de la fête Dieu, puis un jour de semaine, et c'est tout, ils étaient là, mais il n'y a personne, la famille ne veut pas venir non plus, c'est trop loin, venir de... puis ils l'ont enterré assez vite, bon, c'était en été, peut-être qu'ils avaient peur, hein. Donc, les conservations du corps, comme ça, c'était... Voilà, ça c'est un lieu. Donc pour moi c'est pareil, c'est important de faire comprendre aux gens que ces lieux sont très marqués par la présence de quelqu'un. Mmh. Alors on finit par vivre avec. Quoi. Mmh. Alors je vais vous amener à la crypte maintenant quand même. Hein. Là c'est la porte des portes. Simplement qu'on nous a conseillé de mettre des verres pour que les gens se rendent compte qu'il y avait la chapelle à côté. Mmh. Parce que sinon ils n'osaient pas rentrer. Et ça fait partie de l'ensemble qui est ouvert au public. Là, j'ai beaucoup aimé, parce qu'on voulait même démolir ce mur. Pour...
Bon,
quand je vais prier le Père Cassin, bon, je le dis comme ça, c'est pas... ça m'arrive de me coucher sur le parquet, parce que je suis sûr qu'il est mort dans le coin, là-bas. On l'a levé, on l'a mis sur un fauteuil. Il n'y a pas de place pour le fauteuil que là-bas. Hein. Non, ça, c'est le parquet. J'ai même gardé, on l'a pensé, le parquet, j'ai gardé toute la pousse. En Amérique, ça vaudrait une fortune. Les reliques. Donc, avant la béatification, on a fait venir deux médecins experts, et ça a été ma grande joie comme ça. On a ouvert dans le sarcophage, parce qu'il y a un cercueil de plomb, un cercueil en bois, on ne peut plus y toucher, c'est scellé, et on a reconstitué son squelette sur une table dans l'église, un huis clos, ce qui m'a permis d'embrasser le Père Cassin. C'était pas du tout macabre. On avait deux médecins là qui étaient vraiment. Ils ont montré la beauté, la complication que c'est de reconstituer une colonne vertébrale, parce qu'il a le squelette assez intact. Donc, comme on a dit de Jésus, ils ont compté tous ses os. Donc, je l'ai en photo, tout.
Et vous savez plus tout.
Et à ce moment-là, on prélève les reliques qu'on appelle. C'est-à-dire, on prend les morceaux les plus beaux, les morceaux de doigts, des trucs comme ça. C'est ce qu'on appelle après. Exocibus, les reliques authentiques. Sinon, après, c'est du tissu ayant trouvé à son corps. Là, on peut en faire. C'est vite fait avec des draps. Et donc, voilà. Donc, mais on ne peut plus y toucher maintenant. Il y a les scellés partout. Donc, sarcophage en plomb, soudé et tout. Et puis, voilà.
Vous avez le privilège de pouvoir le toucher et l'embrasser, alors.
Ah oui, moi j'ai pu, j'étais content, je l'ai embrassé, oui. Là, quand je suis rentré au monastère, on avait une célébration comme ça, je me souviens, en 63 ou 64. On avait ouvert déjà le sang. J'avais vu le père abbé et Jean de la Croix qui prenaient la tête du père Cassin qui l'embrassait. J'ai dit, mon Dieu, jamais, jamais, jamais tu me feras embrasser une tête de squelette.
Un crâne, voilà, c'est sûr.
Et là, on a vécu comme ça, bon, aucun problème, j'étais content comme tout, c'est mon petit copain, mon petit frère. Voilà, donc là, maintenant, et on a la chance, parce que voyez-vous, c'est hors clôture, puisqu'on parle de la clôture, c'est-à-dire, les gens peuvent y... Parce qu'à Boulogne, là, les sœurs du Boulogne, elles ont le problème de Claire de Castelbachat, donc elles l'ont dans l'église. Mais ce n'est pas commode, parce qu'on est obligé de fermer. Là, c'est ouvert.
Là, c'est ouvert,
Les gens peuvent
la nuit aussi c'est... Là, vous laissez nuit et jour.
Je ne m'occupe pas. Qu'est-ce que vous comprenez? Un nonos? Non, oh, ben, on pourrait avoir un problème.
Oui, on pourrait avoir
comme
une profanation.
La chapelle de pèlerinage, je ne la ferme jamais non plus. Hein. Il y a toujours des gens qui vont prier. Non, je crois que... Alors, ça ne nous gêne pas. Quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, après il faut gérer un peu les fleurs, des choses comme ça, mais autrement, non, ça me permet d'aller le voir de temps en temps. Parce que...
Et il y a toujours du monde.
Là, oui, parce que ça s'y prête bien, le passage.
Et puis là, c'est le début des vacances.
Et puis les gens, vous savez qu'une demande importante qui est là, c'est très curieux, je me demande comment ils s'occupent de ces choses, c'est des mamans, des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui se confient à lui. Et ça marche. On en connaît plusieurs. C'est curieux de quoi il s'occupe.
On n'aurait pas cru. Hein.
Ah non,
on
n'aurait pas cru. Je ne savais pas qu'il avait suivi des coups. Et là, il y a un an, surtout, je suis rentré en relation avec un Japonais, Andreas. Parce qu'au Japon, nous avons des communautés religieuses cisterciennes. Donc il est rentré dans il a été visité une communauté démoniale. Et puis il est tombé sur une image du Père Cassin. Donc, au Japon. Et voilà, le Père Cassin est entré dans sa vie. Finalement, il était, je crois, comptable dans l'entreprise de son père, qui avait une grande industrie. Il a quitté tout ça, il est venu en France. Là, il a fait ses études un peu de, à Vénasque, au centre de ville à... Comment ça s'appelle ? Enfin, c'est carmélitain. Oui. Voilà, il a fait ses études là. Je pense qu'il a fait ses engagements. Il est venu ici, bien sûr, parce qu'il voulait voir le père Cassan de plus près. Il a passé une année à Toulouse, à l'Institut catholique, là, pour réapprendre son français un peu, parce que c'est très difficile pour parler français.
Bah, pour un japonais, oui.
Et puis là, maintenant, il est reparti à Vénasque, où je pense qu'il va rester. Il est venu me voir, lui, le directeur, là. Et donc, bien sûr, il a profité pour voir son père Cassan. Voilà, une vie qui a changé encore du père Cassan. Et la dernière image que j'ai eue, témoignage que j'ai eu par téléphone, c'est une dame qui est au fin fond de l'Ariège, une vieille dame. Elle est en train de passer le balai sur son trottoir, de là à la porte. Bon, c'est pas grand-chose. Tout d'un coup, il y a un journal qui arrive comme ça. Oh, je vais regarder, qu'est-ce que c'est ? C'est pas vieux, ça date de 2 ans, peut-être. Elle regarde ce journal, c'était la relation de la béatification du père Cassan qui avait lieu 3 ou 4 ans avant. Bon, elle se dit, je le garde, je ne mets pas la poubelle. Puis le soir, elle se met à le lire, elle est bouleversée par cette histoire. Du coup, elle téléphone à Casseneuil, puisqu'elle voit que père Cassan est de Casseneuil. Elle téléphone à monsieur le curé de Casseneuil. Elle dit, voilà, je viens, je voudrais en savoir plus sur le père Cassan, ça m'intéresse. Et puis le curé lui a dit, bon, ben, vous téléphonez à l'abbaye, vous aurez le frère Robert, il vous enverra. Donc je l'ai au téléphone, je peux noter exactement, c'est ça. Puis elle me dit, voilà, j'étais angoissée, j'avais des nouvelles difficiles, j'attendais un courrier difficile pour des affaires. J'ai reçu une réponse super bien. Et puis peut-être même au niveau santé, les médecins étaient un peu intrigués par une évolution. Bon, peu importe. En tout cas, à partir de ce jour, elle a senti qu'elle avait un compagnon dans sa vie alors qu'elle était seule. Mais ça ne m'étonne pas, c'est son style, comment il rentre chez les gens.
Voyez. De façon discrète, c'est le...
Voilà, c'est tout.
Discrètement.
Mais c'est beau ce témoignage, ça m'a beaucoup touché. Et chez la dame, attention, elle avait du pain, j'ai radoté par la veille. On a souvent des... Là, je vais mettre une boîte en bois, ça manquait pour les papiers, on a des papiers sur un peu partout. Mais des remerciements, en tout cas, on connaît... D'ailleurs, le premier miracle qui est retenu un peu, c'est ça, Madame Roumazeil, qui était enceinte... et qui se trouve avec le cancer du sein vers les années 35, je ne sais pas à l'époque comment ça marchait. Alors on lui dit non, il faut avorter, puis après on s'occupera. Elle a dit non, je refuse. Donc elle a été opérée du cancer du sein, ça s'est opéré d'une façon, passé d'une façon extraordinaire. Quelques temps après, elle a mis au monde un petit garçon, Roumazeil, et aujourd'hui on a sa descendance du côté de Bordeaux, Roumazeil, elle est déjà, elle a eu l'occasion de venir, la fille, la descendance. Voilà, des signes comme ça, mystérieux, bon.
Mais c'est sa présence, oui, il est là, c'est là.
Il y a des choses, et puis d'autres, des petits faits, je crois qu'il a... Mais ce n'est pas suffisant, voyez-vous, pour la canonisation, il faut... Moi, j'ai un ami aussi à Montpellier, bien sûr, je suis originaire du diocèse d'Albi. Laurent, qui était à Montpellier, avec un grave problème cardiaque, on n'arrivait pas à retrouver un rythme cardiaque normal, il était aux urgences et tout, et il vient souvent avec sa sœur ici, comme on était ensemble au séminaire, et... passionné du père Cassan aussi, tous les deux, une étoile à Crète et tout. Alors, j'ai dit, je vais t'envoyer une relique du père Cassan, bon, souvenir de lui, puis tu la mettras sur ton cœur. Puis, voilà, il l'a fait, et je crois que presque le jour même, son cœur a retrouvé un rythme. J'ai le certificat médical, en disant, monsieur Jeanne, bon, il a eu ses médicaments, mais là, quand même, il y a un passage, je ne comprends pas. Et depuis, ça marche. Alors, après, allez voir, hein. Maintenant, c'est dangereux, parce que si soigner tout le monde, imaginez que tous les hôpitaux de Toulouse ferment. On va se choper tout le monde médical sur le dos. Arrêtez. Mais le miracle n'est pas l'essentiel. Mais c'est le signe, je pense. Un signe de dire, attention, peut-être, là, il faut s'intéresser, peut-être. Ouais. Alors, c'est plus difficile de mettre sa spiritualité. Mais Mgr Marcus avait fait de très beaux articles dans Foi et Vie aussi. Sur ce message du père Cassan pour les pauvres qui rejoint Germaine. Entre ces, c'est le même Saint-Esprit. Alors, ils se contredisent pas.
Les petits qui sont dans la vérité.
Voilà.
Le chemin du bonheur ou chemin vers le bonheur. Sans doute les deux à la fois. Tel fut en tout cas le chemin suivi par le frère Marie-Joseph Cassan durant sa brève existence, dont nous célébrerons, je vous le rappelle, la fête ce samedi 16 juin 2018 à l'abbaye Sainte-Marie du Désert. Alors voilà le déroulement de la journée. À 11h, la messe sera présidée par Mgr Jean Legré, évêque d'Albi, et sera suivie d'une procession à la crypte et puis d'un repas tiré du sac. À 15h, l'office de nonne, puis Sœur Gabriella, postulatrice de la cause des saints de l'ordre cistercien, donnera une conférence sur le bienheureux Marie-Joseph Casson, le pouvoir des humbles. Puis à 18h30, les vêpres, et la journée s'achèvera enfin à 20h avec les complices.